Et après le CNE, du coup, c'est quoi ta structure d'entraînement?
Après le CNE, je fais une année à l'Académie All-In à Aqua Boulevard. Donc, je reste sur Paris. Et ensuite, je quitte cette académie pour commencer une collaboration avec Marion Bartoli. Et ça a duré 3 mois. Donc, riche d'enseignement, d'expérience, tout ça. Et on met un terme à cette relation, à cette collaboration. Et après ça, je reste 8 mois sans coach en cherchant le bon coach. Et je mets ouais, 8 mois à le trouver. En août, je le trouve. Et on fait un an et demi ensemble. Et après, notre relation, notre collaboration se termine post-Covid, quoi, après le Covid, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé pendant cette période. Et voilà, et là, j'ai pareil, j'étais en test. J'ai fait 2 tests avec des coachs après ça. Ça n'a pas trop marché. Et ensuite, j'ai fait 2 autres tests et les 2 autres tests ont été plutôt positifs. Et actuellement, je suis avec Georges Goven. Et ça se passe très bien. Il a 73 ans, donc je le prends un peu comme un vieux sage. Avec tout le respect, tu vois, que je dois, parce qu'il est exceptionnel. Il est tant sur le terrain que hors terrain. J'apprends à chaque fois qu'il ouvre la bouche, j'apprends quelque chose. Donc, c'est hyper riche, tu vois.
Ah ouais, non, mais moi je suis, enfin, j'adore Georges Goven, ouais, je l'entends souvent parler tennis et c'est passionnant à chaque fois ce qu'il
Mais
raconte.
pas que tennis, hein. Après, quand il
Oui.
commente Eurosport, forcément,
Ah oui, c'est
mais
sûr.
il m'apprend pas que sur le tennis, hein. C'est
Ouais, il t'apprend un peu,
non,
enfin, il
c'est
partage
sûr.
son expérience de la vie, quoi.
Ouais, mais
Bah.
il est très bon.
Et toi, ouais, justement, que t'as besoin de. Quoi de la part d'un coach en fait? C'est en fonction de ta personnalité et tout, c'est quoi toi? Qu'est-ce que tu vas aimer chez un coach, tu vois?
Moi, je marche beaucoup à l'affectif. Donc déjà, faut qu'il y ait une bonne énergie, tu vois. Qu'on s'entende bien comme ça. Et après, bon, tennistiquement, je sais jouer, on sait tout jouer au tennis. Ce qui compte, c'est les détails. Donc les réglages, régler tout ça. Et le bon discours au bon moment aussi, ça c'est... Parce que voilà, j'ai fait un coup droit, j'ai fait un revers. Il faut que j'améliore certains coups de ma boîte, de ma palette de jeu. Et pareil, mental aussi, à travailler pas mal. Mais je te dis, c'est le bon discours au bon moment, la bonne personne au bon moment. Il faut que, ouais, faut qu'on s'entende bien et que inconsciemment, tu vois. Je puisse puiser mes ressources dans ce coach-là qui me donne les bonnes clés quand le moment est arrivé, tu vois.
Ok. Et au niveau de ton jeu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton jeu, comment tu te définis?
Alors là, avec Georges, justement, on essaye de... Enfin, on n'essaye pas, on fait... On recrée mon identité de joueuse. Moi, j'ai une très bonne défense. Je défends très, très bien. J'ai une bonne couverture de terrain. Après, il faut que je re-switch, tu vois, en attaquante. Il faut que mon jeu soit plus offensif. Alors, l'entraînement, il n'y a pas de problème. Mais après, justement, c'est un match où je peine un peu plus. J'ai un peu plus de mal à recréer ça. Mais je l'ai. C'est en moi, c'est dans ma main. C'est dans mon corps. Et il faut, voilà, c'est un travail mental à faire, une question de confiance et de lâcher prise. Et ça, tu vois, ça se travaille pas. Bien sûr, ça se travaille sur le terrain, on s'entraîne, on fait des gammes, on répète, on fait du panier, tout ça, mais c'est aussi un travail mental et puis aussi de discussion avec le coach parce que la méthode Coué, tu vois, te dire ouais, je suis la plus forte, je suis la plus belle, je suis la plus si, je suis la plus ça. Tu peux te le dire, mais s'il n'y a pas les résultats, bah, tu peux te le dire toute ta vie. Les résultats, ils ne vont jamais venir si tu ne crois pas à 100%. Moi, il faut que j'ai cette petite voix alors, intérieure qui est en moi, mais elle se crée cette petite voix intérieure quand j'ai la voix extérieure d'un grand sage qui me le dit, tu vois.
Ouais,
J'ai
c'est
besoin de
ça.
faire confiance à quelqu'un pour croire en moi, tu vois.
Ok. Oui, parce que forcément, George Goven, il peut t'aider sur tous les aspects. Je sais que parfois, tu sais, il y a des joueurs qui font appel à des psychologues, à des gens qui sont, entre guillemets, tu sais, spécialisés pour la préparation mentale. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? T'as pas spécialement besoin que ça, puisque justement, t'as Georges Goven qui t'appuie sur ça?
Après, ça dépend dans la situation dans laquelle tu te trouves, etc. Mais là, en ce moment, je travaille avec quand même un psychologue, on va dire, du sport. Mais on ne parle pas que de sport avec ce psychologue-là. C'est pour aussi avoir un équilibre dans la vie, tu vois. C'est aussi important parce que moi, à partir du moment où je m'entends bien avec la personne, je lui dis tout, tu vois. Donc avec Georges, je dis tout. Avec mes anciens coachs, je disais tout, que ça soit tennis ou hors tennis, quand j'avais des problèmes ou des questionnements ou des trucs avec les garçons, tu vois, je disais tout. Donc quand je fais confiance à quelqu'un, quand je suis en relation avec en collaboration avec quelqu'un, il n'y a pas de secret parce qu'il faut qu'il sache il faut qu'il sache tout sur moi, parce que si à un moment donné sur le terrain je vais pas bien ou des trucs comme ça, qu'ils me connaissent pour savoir laquelle des clés, quel outil il faut sortir de ma boîte à outils, à ce moment-là, bah, il le sait, et c'est ça, c'est subtil après, tu vois, ça joue dans les détails. Donc, mais après, il faut faire attention parce que le préparateur mental, tu peux avoir tout et n'importe quoi, tu vois. Donc mon préparateur mental qui est mort du coup en 2005, en 2016 pardon, pendant ma blessure, c'était François Ducasse, et je l'adorais, et il y avait cette connexion, tu vois, qui s'est faite, et c'était vraiment quelqu'un de bien. Je vais juste raconter ça parce que c'est une petite anecdote. Donc François Ducasse travaillait avec Makis Chamaladze. Désolée Makis, j'ai un peu écorché ton nom, mais je ne sais pas trop comment on le dit. Et c'était à l'INSEP justement, donc on parlait de l'INSEP tout à l'heure. Et il y avait toutes les joueuses des centres, donc c'est-à-dire de l'INSEP et du CNE, qui sont venus à l'INSEP pour faire ce meeting avec Makis et François. Moi, je travaillais avec aucun des deux encore à l'époque, et c'était plus François qui parlait. Et François, je ne sais pas pourquoi, il a fait que me poser les questions à moi, tout le temps. Et moi, ça m'a un peu énervée parce que je disais ce que je pensais, puis il me contredisait tout le temps. Donc moi, ça, j'ai pas supporté. J'étais un peu j'étais ado, enfin, j'avais 14 ans, et quand on me contredisait comme ça, j'aimais pas du tout. Parce que moi, je disais ce que je pensais, donc je dis pas oui, c'est vrai, c'est pas vrai, mais lui, à chaque fois, mon ressenti, il disait genre c'est de la merde. Je dis bah, je t'ai pas demandé de juger, tu vois. Tu me poses une question, je te réponds. Et ça m'avait vraiment titillée, donc beaucoup énervée. De ce fait-là, je décide de travailler avec Makis qui est plus doux, tout ça. Bon, on travaille avec Makis, mais je ne vois pas d'amélioration, tout ça. Puis petit à petit, il y a quelques soucis qui se mettent avec Makis. Et d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je prends mon téléphone et j'appelle François, avec qui je détestais. On se croisait, je lui disais à peine bonjour, je disais bonjour, mais je ne le regardais pas, enfin, je ne voulais pas le voir, ce beau-là. Et puis là, je l'appelle. Il décroche, et puis bah, je lui dis, écoute, François, j'ai une intuition, je veux travailler avec toi. Et direct, le lendemain, on se voit, et on s'est lié d'amitié, je ne peux pas dire ça, mais il y a eu vraiment une connexion forte. On déjeunait ensemble, c'est lui qui me disait, bon là, on déjeune, il ne me laissait pas le choix. Et moi, je me laissais porter parce que je me suis dit, je savais que c'était... je me laissais porter, tu vois. C'était ça. Et on a trouvé plein de trucs. Il m'appelait l'araignée. On a trouvé plein de... Ça, je te dis ça, mais toi, tu peux pas comprendre. Vous pouvez non, mais pas comprendre. Non,
ouais. Ouais,
bah. C'était notre truc. Et avec, Hugo Lecoq, mon entraîneur à l'époque, voilà, on était trois personnes dans la team. C'était très bien. Et quand il est décédé, bah, du coup, je l'ai appris par la Fédé. J'ai ressenti un vide à l'intérieur de moi et depuis j'ai jamais retrouvé un aussi bon préparateur mental que lui. Ça m'a fait très bizarre, ça m'a fait très mal quand j'ai su qu'il était parti, parce que pour moi c'était vraiment le meilleur. Et du coup, mes parents avaient acheté son livre avant que je travaille avec lui, qui s'appelle Champion dans la tête. Lui m'a offert un bracelet d'ailleurs et que je l'ai toujours dans ma chambre, et j'ai lu son livre et c'est, tu vois, c'est pas pareil parce que c'est lui qui a écrit, c'est ses propos, mais quand tu lis quelque chose, tu vois, et c'est pas la personne qui te le dit et c'est pas la même chose. Donc moi je suis restée sur mes acquis avec François et pas sur ce qu'il a écrit.
Ouais. Et qu'est-ce qui faisait que pour toi c'était le meilleur préparateur mental?
Bah c'est un tout, tu vois, parce que je te dis, au début je le détestais, mais vraiment, tu sais, quand tu détestes quelqu'un, ouais. Et puis finalement, il y a eu un retournement de situation et ça a été l'inverse. C'était la personne que j'adorais le plus. Il était, je l'aimais autant que Hugo, mon ancien entraîneur. C'était, chaque jour on communiquait, tu vois, il venait sur le terrain alors, par surprise parce que, tu sais, il fallait pas, il jouait un peu avec ça, tu sais pas, il fallait être dans l'adaptation, tu vois, tout le temps. Je sais pas, tu sais, quand tu tombes amoureux, bah, tu sais pas pourquoi, bah, là c'était une connexion comme ça, mentale, donc
ouais, en fait,
c'était un peu fort. Je me dis, je l'aimais pas, puis d'un coup ça devient la personne limite la plus importante dans ma team, dans ma progression, tu vois, c'était, je sais pas.
Ouais, c'est comme tu dis, c'est, t'as des gens dans la vie, ça fit ou ça fit pas, quoi, tu l'expliques pas, et ça,
c'est... Au début ça a pas du tout, hein. c'est bizarre, mais moi ça m'arrive souvent, ça. Enfin, je veux pas dire je déteste beaucoup de personnes parce que c'est pas vrai, mais souvent c'est ça. Il y a une personne, je veux dire, je pourrais jamais me lier de quelques liens avec cette personne, et finalement ça se fait, puis justement cette personne elle devient plus importante que les autres, tu vois.
Et ça, mais ça vient, tu penses que c'est quoi? C'est parce que t'as besoin du petit, entre guillemets, du... pas du clash, mais tu vois, du petit truc un peu qui titille au début, pour après ou... Non,
pas, parce que je suis pas dans le fight quand même, mais je pense, c'est, enfin, je crois aux énergies et aux trucs que tu comprends pas encore, et je suis sûre que ça a un lien, que... Enfin, tu vois, moi, je sais pas comment l'expliquer, comment le gérer, tout ça, ça se fait naturellement.
Ouais.
Ça s'appelle le hasard, je sais pas. En tout cas, ça s'est fait.
Bah c'est top, en tout cas, parce que rencontrer des gens comme ça, rares, avec qui tu as des vraies connexions, il y en a très très peu, quoi, dans la vie.
Et c'est genre deux énergies,
ouais.
Et ça s'est, on s'est trouvé, tu vois. Voilà, c'est pas, c'est professionnellement, on s'est trouvé.
Tes parents, dans ta vie tennistique, c'est quoi leur place? Ils t'encouragent beaucoup? Ils sont toujours bienveillants? Ils te protègent?
Mes parents, c'était les personnes, ouais, qui m'ont mis au tennis. Et ils ont toujours mis en premier la femme que je suis avant la tennis woman, tu vois. Parce que la santé, pour eux, physique ou mentale, la santé de leur fille, c'est le plus important. Je donne un exemple. Par exemple, moi, je suis partie à 12 ans à Poitiers et j'aurais pu partir à 11 ans. Mes parents, ils n'ont pas voulu parce que ça restait encore jeune. Et la Fédé a vraiment poussé le bouchon pour que je parte, tu vois, a mis la pression. Et finalement, la CD, je suis restée. Y a ça, il y a, par exemple, pour mon genou, ils ne m'ont pas forcé à me faire opérer ou reprendre le tennis. J'ai le choix tout le temps, tu vois. Par contre, ils sont là pour me remettre sur les rails quand je vais pas bien, quand le tennis, il me détruit. Ils sont là à me dire, mais si tu vas arrêter, t'arrêtes, ou des trucs comme ça. Donc forcément, moi, je ne vais pas arrêter. Donc je reviens toujours. Mais le tennis, pour eux, enfin, je ne vais pas dire c'est secondaire, parce que c'est quand même une grande place dans ma vie, du coup, dans leur vie, parce que voilà, ça a beaucoup tourné autour de ça quand j'étais jeune. Enfin, plus petite, parce que je suis toujours très jeune. Mais voilà, pareil. Le dopage, tu vois, pour eux, ça c'est affreux, c'est horrible, c'est pas possible de se doper pour faire un. Tu détruis ta vie pour aller gagner des médailles ou des coupes. Pour eux, ça c'est. Enfin, j'ai. Moi-même, le dopage, ça n'existe pas, c'est pas dans mon vocabulaire, mais si. Enfin, je veux pas dire je fais un truc, mais si je me dope. Ben, alors là, je ne raconte pas. J'ai risque de cancer, tout ça, mais aux yeux de mes parents, là, ils ne me comprendraient pas, tu vois. Donc, il y a vraiment la puissance de leur état d'esprit sur la santé de leur fille, quoi.
Ok. Cette
Mais je paye quand même, je ne me doperai jamais.
ah c'est on est content de le savoir du coup parce qu'on avait un petit doute. Non,
Plus tard, tu sais, il y a des doutes ou quoi, je le dis.
mais tu le déclares là aujourd'hui, 17 avril 2021. Tac,
Ouais.
c'est acté.
D'ailleurs, c'est l'anniversaire de mon grand-père aujourd'hui, qui est parti, du coup, il y a 5 ans. Bon anniversaire, grand-père. Là, tu veux dire, elle est folle.
Et si, ouais, je voulais te demander, toi, comment tu gères la victoire et la défaite? Comment tu vois?
Alors, là, j'ai un travail à faire aussi sur ça. C'est que la défaite, je ne veux pas dire que je la gère vraiment très bien. C'est que je ne suis pas mauvaise perdante parce que, voilà, si la fille, elle a bien joué, elle a bien joué, bravo. Mais moi, je vais me dire, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Et ça va un peu me miner parce que je reste pas sur les acquis, je reste pas sur le fait, bon, j'ai perdu, next, demain, ça sera un meilleur jour. Non, je reste dessus et je me questionne jusqu'à pas dormir pour savoir où j'ai merdé, entre guillemets. Donc, voilà, j'ai un travail à faire sur la défaite et sur la victoire. Non, je me dis, il y a un autre match derrière. Donc, je sais que je savoure, j'ai appris maintenant à savourer quand même le moment où tu sers la, enfin, où tu checkes la main de l'adversaire avec ta raquette maintenant, les quelques minutes qui suivent, parce que sinon, c'est toujours net. Bon, là, il faut que j'aille faire l'arrêt, il faut que je mange ça, il faut que je dorme, nanana. Maintenant, j'essaye de profiter un peu plus de ce moment-là qui est très éphémère, parce que le lendemain ou même l'après-midi, même quand tu es en qualif, tu rejoues le match et voilà, tu peux reperdre ou tu peux regagner. Donc, ouais, parce que ça fait du bien de gagner. Enfin, tu le mets dans ta poche et c'est fini, tu as gagné. Il y a l'autre match, tu vois, mais il faut un peu savourer ça parce que c'est important pour toi, pour ton mental, pour ta confiance. Pas te dire, ouais, j'ai gagné, elle est next. Il y en a qui peuvent le faire, mais je l'ai fait. Maintenant, je préfère me savourer un peu plus. Que ce soit une victoire, même si c'est une petite victoire, c'est pas grave, c'est bien, ça reste important pour ta confiance. Après, là, je lis pas mal de livres sur la psychologie et la philosophie également, où voilà, faut avoir un esprit stoïcien, tu vois, faut être comment dire, faut il y a des choses que tu contrôles et d'autres que tu peux pas contrôler, que tu contrôleras pas. Et ce que tu peux pas contrôler, eh ben, c'est pas grave, tu as fait de ton mieux. Et c'est comme ça, pas le. Bon, c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça, c'est tout, tu vois.
Ouais, je vois, ouais. Et tu parlais, tu sais, au niveau de la défaite, le travail, il passe par énormément de discussions avec ton coach, avec un prépa mental. Enfin, C'est vraiment un gros travail, j'imagine, bah, sur du long terme, quoi. C'est pas un truc qu'on règle comme ça en une discussion, quoi.
Ben, ça dépend après les personnes, parce que tu as des joueurs qui ne travaillent pas le mental du tout, et tu en as d'autres qui le travaillent, mais toi, tu ne vas pas forcément le travailler pareil, parce que tu n'as pas les mêmes besoins, les mêmes profils, les mêmes... C'est un travail, en fait, c'est pas tu vas faire ta muscu, et puis tu vas faire tant de séries, et puis voilà, tu retournes... T'as fini ta jour, enfin t'as fini ton entraînement, c'est pas ça, c'est un travail, je dirais que c'est un travail, c'est le mental, je dirais que c'est un travail plus qu'au quotidien, tu vois, c'est une philosophie de vie, ton mental, c'est tout, c'est la conviction, une conviction que t'as en toi et qu'il faut l'entretenir, la nourrir, et puis t'as entre guillemets t'as pas le droit de flancher, tu vois, parce que par exemple physiquement, bon bah tu fais, voilà, tu travailles et puis tu veux te faire un plaisir, tu te manges un gâteau, je sais pas quoi, bah c'est pas grave, tu vas faire ton activité physique et puis tu vas dépenser ces calories entre guillemets en trop qui sont très minimes, hein. Mais par exemple, mental, si tu te dis à un moment donné tu crois plus en toi, et ben c'est plus dur de retrouver cette confiance, tu vois, c'est pas, tu vas pas redire, tu vas pas faire méthode couée, je reprends confiance en moi, je reprends confiance en moi, ça rentrera pas, c'est pas ça, c'est pas une leçon que tu apprends.
Ouais, je vois, ouais. Et d'ailleurs, toi, t'as arrêté les études ou tu continues?
Moi j'ai eu mon bac L avec mention du coup en 2017 à mes 18 ans, et puis,
T'as eu mention très bien?
j'ai eu mention assez bien.
C'est bien.
Parce que la philosophie, c'était ECOF7. Et puis, je sais pas, qu'est-ce que t'en dis, toi? La justice est-elle égale pour tous? Je pense que le correcteur n'est pas trop compris ce que j'ai voulu dire. C'est compliqué, la justice est-elle égale pour tous? Bah, écoute, j'ai pas eu une très bonne note, et du coup, ça m'a fait baisser. Mais dans toutes les autres, j'ai cartonné dans les autres matières. Et puis, voilà, j'ai quand même réussi à avoir mention assez bien.
Non, bah c'est top, ouais, c'est top. Et tu t'as
Avec j'ai fait CNED à partir de Poitiers, donc de la cinquième à la terminale, j'étais au CNED.
Ah oui.
Et c'est pas facile, facile.
C'est galère, ouais, c'est.
Ouais. Parce que les cours sont très condensés, donc. Et puis j'avais pas trop de profs, puis on partait beaucoup en voyage, donc j'étais beaucoup seule. Donc c'est vrai que c'est pas facile, facile. Mais bon, je l'ai fait, c'est in the pocket. Non.
Bravo, bravo. Et ouais, du coup, t'as eu ton bac et t'as arrêté après les études, quoi.
Ouais, après j'ai passé mon permis, pareil, je l'ai eu pour mes coups, et puis qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Si, les trucs de premier secours, et puis voilà.
C'est bien. T'as le package, du coup, ouais, c'est cool, ouais. Comment tu l'as cette année-là de Covid, là, tu l'as. Comment tu l'as vécu? Galère pour jouer des tournois, j'imagine? Compliqué.
Alors, en fait, janvier 2020, je gagne mon premier ETF, mon premier 15 000 dollars, mon premier titre pro. Donc, j'étais bien partie. Et puis, bon, bah, Covid à ce moment-là, donc arrêté. Le confinement, bah, j'ai plutôt, entre guillemets, bien vécu parce que je suis retournée chez mes parents. Donc, voilà, on était en famille. J'ai pu m'entraîner tous les jours, que ce soit tennis ou physique. Et je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Tu sais, le confinement, là, comment on appelle, de la compétition. Et du coup, je suis partie vraiment très forte parce que je me dis, bon, bah, moi, j'ai la chance d'avoir un cours, de pouvoir faire mon physique, de m'entraîner normalement. Quand je vais arriver, bon, bah, je vais avoir beaucoup d'avance sur les filles. Et finalement, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et j'ai réussi à me blesser deux fois pendant le confinement. Donc, une fois au cou-épaule où j'étais bloquée, une sorte de torticolis. Et le deuxième, j'ai eu très peur, c'est au niveau du genou, mon genou opéré. Et je me dis, oh là là, j'ai trop fait de pistoles. Tu sais, les pistoles, c'est des squats sur une jambe, tu sais. Et je passe une IRM parce que je pouvais plus marcher. Je pouvais plus plier mon genou, ni me tendre. Je passe une IRM, en fait, bon, bah, chance, c'est le kyste pipeloté, je crois que ça se dit comme ça. Donc, un kyste qui est derrière le genou, qui a explosé. Donc, ça a fait mal, mais tant mieux qu'il a explosé, parce que sinon, il reste et il peut se poser à tout moment, donc ça peut se passer en match. Donc voilà. J'ai progressé physiquement quand même, tennistiquement, j'avais pas mon coach, mais voilà, je tapais. J'en ai profité pour retravailler la psychologie, la philosophie, et puis la nutrition. Aussi les énergies, je me suis lancée dans les chakras, tout ça. Donc voilà, je veux dire que sur ça, j'ai progressé parce que je n'avais pas eu le temps de le faire avant Covid, quoi. Et après, il y a les tournois qui ont repris. J'ai cartonné en retour de tournoi où j'ai gagné 8 victoires d'affilée. J'ai gagné 2 tournois d'affilée, du coup, le CNGT de Reims et le CNGT de Granville, où j'ai très bien joué. Tu sais, les CNGT, tu connais, c'est les plus grands tournois nationaux. Donc, il y a quand même du monde, donc j'étais contente de moi. Puis après, la reprise sur l'ITF, sur le circuit ITF, bon, là, ça a été un peu plus dur. C'est pas la même pression. J'ai beaucoup moins bien joué sur ce circuit-là. Et puis quoi d'autre? Si, en double, j'ai gagné mon premier titre, le 15 000 dollars aussi, le titre pro, à Saint-Palais, donc en septembre. Donc c'était pas non plus une année mauvaise avec le Covid, tu vois. Donc j'imagine sans Covid, ça aurait pu être monstrueux.
Mais c'est vrai que, comme tu dis, et c'est là où c'est super intéressant ce que tu racontes. Ok, c'est vrai que l'année elle était hyper dure, mais toi ça t'a permis d'avancer sur d'autres choses quoi. T'as pas perdu de temps à ce niveau-là, t'as appris d'autres choses, tu t'es dirigé vers d'autres trucs quoi.
Je supporte pas ne pas progresser ou ne pas avancer. Faut que ma vie elle ait un sens, tu vois. Et là, on m'a privé du tennis, donc on m'a privé de mon métier. Je me dis, mais faut que j'avance dans quelque chose d'autre, sinon, parce que moi, je suis pas très série, tu vois. Je regarde pas la télé. Je passais toute ma journée soit dehors à m'entraîner ou sinon aider les parents dans le jardin, parce qu'on a un grand jardin. Et bon, c'était le moment de tout nettoyer. Et voilà, enfin, oui, il fallait que je fasse quelque chose qui allait dans le bon sens pour moi.
Ouais, je vois. Et justement, tu parlais de quelque chose d'intéressant, la nutrition. C'est un régime particulier, du coup?
Alors, en fait, je me suis vraiment lancée dedans parce que j'avais un peu lâché le truc à cause des cours de l'école, parce que la préparation du bac, tout ça, c'était vraiment intense en étant en PNEL. J'avais fait une prise de sang spécialisée, tu sais, pour savoir vraiment toutes tes intolérances. Donc, j'ai retrouvé ce document-là et j'ai tout checké. Et finalement, je me suis rendu compte, je savais que j'étais intolérante au gluten. Mais je ne savais pas, par exemple, j'étais intolérante à plein d'autres choses, mais que je continuais à manger. Et en fait, quand tu es intolérant à certains aliments, des fois, tu as des douleurs physiques, tu vois, tu te dis, ah, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos et tout. Et des fois, tu peux pas, tu le sais pas. Et c'est très mesquin, on va dire, parce que ça peut créer des blessures, ça peut jouer sur ton sommeil. Donc, tu sais, ça va comme ça et tu t'en rends pas compte, mais du coup, c'est un peu toi qui t'inflige ça inconsciemment parce que tu manges quelque chose qui te convient pas et qui peut jouer sur plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est un gros travail à faire parce que des fois, tu aimes bien un aliment, mais en fait, tu es intolérant, tu vois. Donc, c'est aussi ça peut être de la souffrance au début, mais après, tu te dis c'est pour ta santé, donc tu peux le faire de temps en temps, par exemple, si t'as pas une compète ou quoi, mais après, voilà, tu vas pas pleurer si t'as mal quelque part ou si tu te blesses. Et comme on veut pas se blesser sportif de haut niveau, faut faire un choix. Et on a le choix, donc on choisit.
Donc toi, tu manges pas de gluten et tu
J'ai pas
ouais.
un truc insulté. Je sais pas, on a le temps.
T'as dit quoi? T'as dit quoi? J'ai pas entendu.
On n'a pas le temps pour faire toute la liste, hein. Il y a plein de trucs que je suis intolérante.
Il y a des ingrédients, ouais, ok.
Le document, il fait 12 pages, si tu veux. Donc,
Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc.
ouais, parce que tu as 3 colonnes. Tu as la colonne où tu peux manger, tu as la colonne où c'est limite, et tu as la colonne à éviter. Donc, quand ils disent éviter, Tu vois, ils te laissent le choix. Soit tu t'infliges le poison, soit pas, tu vois. Donc voilà, il y a plein de trucs.
Et du coup, depuis que tu fais ça, tu te sens mieux dans dans ton corps, dans ton esprit, j'imagine. Enfin, tu ressens les bienfaits, quoi.
Oui. Non, bah oui, forcément, parce que tu sais, les choses simples de la vie, c'est les meilleures. Donc, tu as la nutrition, l'alimentation et le sommeil, tu vois. C'est les trois trucs. Bon, après, tu as l'amour aussi, mais on va dire que tu as ces quatre trucs-là qui te donnent, qui peuvent faire vivre longtemps, puis paisiblement, et puis tu te sens bien. Après, bah forcément, de temps en temps, je mange un gâteau parce que, comment dire, c'est un anniversaire ou parce que j'ai envie, parce que je craque. Et là, bon, bah, moi, je ressens que j'ai mal au dos et j'ai mal au ventre. Donc, en période de compétition, bah, je le fais pas parce que c'est important de bien se sentir.
Ton programme là pour les prochaines semaines, il est clair ou pas trop?
Ben on va essayer qu'il soit clair quand même, mais tu sais, il faut s'adapter avec ben, la crise sanitaire, le peu de tournois qu'il y a. Donc, j'aimerais bien partir dans 2 semaines à Prague, faire les qualifs d'un 25 000. Et si je rentre pas, la semaine qui suit, il y a soit le 60 000 à Saint-Gaudens, ou soit le 60 000 plus H en Espagne. Et après, la semaine d'après, il y a deux tournois qui se suivent en Espagne. Donc, soit je fais une tournée complète en Espagne, ou soit je fais Saint-Gaudens et ensuite je fais deux tournois en Espagne.
Ok, donc top top. Et
Ouais.
ton rêve absolu en tennis, c'est quoi? Enfin, tu vois, ce qui te fait.
Moi, je garde toujours le rêve pour moi. Après, j'ai des objectifs. Je vais te dire mes objectifs. Mes objectifs, c'est d'atteindre, du coup, de pouvoir jouer les quatre grands chelems. Donc, forcément, être dans le top 100 de ce fait. Et les JO. Donc, si possible, le top, ça serait à Paris, à les JO 2024, parce qu'à la maison.
Ouais.
Mais après, c'est pas grave, si c'est autre part, je prends aussi. Hein. Et ça me fait peut-être un peu plus de temps pour grimper au classement, mais voilà. Puis après, mon rêve, bah, il est enfermé à double tour dans le cœur.
Il explosera quand tu l'auras accompli, quoi.
Ouais. Travail, lance, et puis tu connais la suite.
Écoute, franchement, merci beaucoup.
De
C'était
rien, de rien. Merci à toi.
passionnant. Un grand merci à toi.
De rien.